Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Chronique des Charmilles. Donc La Chronique des Charmilles, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission préparée et réalisée par des étudiants en centre de formation professionnelle, Les Charmilles à Saint-Martin-d'Hères. Donc enchanté, je suis Nolan et je vais avoir le plaisir de vous guider tout au long de notre intervention sur l'antenne de News FM. Au menu de notre émission, nous allons parler des voitures électriques et du sentiment d'insécurité à Grenoble. Et nous terminerons enfin par un grand débat sur le conflit de la guerre en Ukraine. Allez, on commence sans attendre avec la question des voitures électriques. Julia et Hugo ont réalisé un micro-trottoir sur ce sujet. Malheureusement, ils ne sont pas présents aujourd'hui pour présenter le micro-trottoir. Tant pis, on écoute le micro-trottoir sans eux.
On voulait savoir ce que vous pensez des voitures électriques.
Nous, on a une voiture normale à essence. Mmh. Mais j'ai vu sur Internet qu'il y a des personnes qui se plaignent de la et qui voudraient revenir. Ceux qui ont acquis une voiture électrique. Reviennent soit au mazout, soit au diesel, soit à l'essence. Mais c'est bien pour l'environnement. Hein. C'est vrai que c'est sûr. Oui. Mais elles sont chères.
Je pense que oui et non. Oui, l'instant, ils disent c'est écologiste.
Vous pensez que c'est écologique ?
Non, parce qu'il y a des batteries en jeu. Il y a des consommations de chargement des batteries. Il faut voir à long terme.
Moi, je ne suis pas pour les voitures de manière générale. Ouais. Je pense que ce n'est pas la solution. Et la voiture électrique, encore moins, parce que du coup, c'est des ressources qui sont vraiment très précieuses, qui sont utilisées. Et on n'a aucun moyen de pouvoir réellement les recycler ou enfin les réutiliser par derrière. Donc, je pense que c'est juste du greenwashing. Voilà.
Ben, si c'est pour aller au travail, à proximité, ça va bien. Mais après, pour les longs parcours, c'est pas bien adapté, hein. Avec environ 300 km d'autonomie, vous êtes obligé de trouver un endroit pour refaire le plein d'électricité. Hein.
Moi j'aime bien les deux, vous savez, moi j'ai mon fils qui a ça, il est bien, c'est très cher. C'est pas permis à tout le monde, même un jeune ou même quelqu'un, moi.
Je sais pas, en fait. Ouais,
vous
en
vous
suis
en
pour. Non, je suis pour.
Ouais, vous êtes pour ? Pourquoi ouais. Vous êtes pour ?
Je suis pas écolo, hein.
Okay.
Mais bon, c'est mieux sûrement.
Je n'ai pas pour le moment, mais j'ai quelques amis qui l'ont. Moi, je trouve que c'est bien. Personnellement, je trouve que c'est très bien. Oui, je suis pour.
Mmh. Ok.
Non, voiture électrique, moi, j'ai pas trop confiance parce que la technologie c'est bien, mais je préfère mettre un seau d'eau. Dans ma voiture, j'ai pas d'essence.
Oui, ouais, non, mais
que
oui.
De dire batterie, parce que les batteries, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très risquant parce que pour réparer c'est très compliqué. Oui. Déjà, je n'ai pas de voiture électrique, mais je compte pas passer sur voiture électrique. Ça, c'est hybride, diesel.
Oui, pourquoi pas, vu du contexte écologique, mais après, je trouve que c'est assez cher dans l'ensemble. Donc, c'est à double tranchant, quoi.
Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis encadré de mes chers collègues. Tristan et Hugo.
Salut Nolan.
Que pensez-vous des voitures électriques sur Grenoble et dans le monde ?
Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Par contre, c'est sûr que c'est un coût financier élevé. Donc pourquoi pas descendre ce coût pour en acheter ?
Moi aussi je pense que c'est une bonne idée. Après, je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul sur le sujet pour savoir à peu près la fiabilité des véhicules, etc. Mais peut-être aussi prévoir plus de construction de bornes de recharge, parce que pour l'instant, on peut pas charger sa voiture où on veut et n'importe où. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu plus démocratiser les bornes de recharge et voir si les véhicules sont quand même fiables, minimum. Ouais.
Je te rejoins complètement sur ce point-là. Donc ensuite, on va parler de la sécurité urbaine, qui est souvent évoquée quand on parle de Grenoble. Donc certains voient Grenoble comme une nouvelle Chicago. D'autres ne ressentent aucune insécurité. Donc Tristan et Hugo vont nous présenter ce sujet. Je vous laisse la parole.
Allez. C'est vrai que le sujet est crucial, qui touche chacun d'entre nous. Donc la sécurité dans notre ville. En fait, qu'on soit résident, étudiant ou professionnel ou simplement de passage, en fait la sécurité c'est une préoccupation majeure. Et beaucoup de gens parlent que Grenoble est la Chicago. Et Hugo, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cela ?
Oui, alors en effet, Grenoble a la réputation d'être le Chicago français. Alors nous allons voir d'où vient cette mauvaise réputation. Pourquoi le lien avec la ville américaine ? Car c'est considéré comme la capitale du crime qu'il est difficile de dater exactement d'où vient l'expression Grenoble-Chicago. L'expression avait été reprise en 2018 par le syndicat de police Alliance, qui mettait en exergue une délinquance 63% plus élevée dans la cité alpine que dans des villes de même taille, et rappelait les propos de l'ancien procureur de la République à Grenoble, Jean-Yves Coquilla, qui avait affirmé en 2017 n'avoir jamais vu une ville de cette taille aussi pourrie et gangrénée par le trafic de drogue. Pour comprendre ce Grenoble bashing, les chercheurs à Grenoble en école de management ont passé près de 9500 articles de presse au crible pour analyser comment les médias ont pesé sur le regard porté sur la préfecture de l'Isère. Alors, dans les années 50, on parlait d'attentats liés à la guerre d'Algérie. Dans les années 60-70, il s'agissait des violences liées au proxénétisme et à l'extrême gauche. Et dans les années 90, c'était très dominé par Carignan et les affaires de justice. Mais ces thématiques-là, on les retrouve aussi dans les autres métropoles. Le virage daterait de 2010 et du discours du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, à Grenoble à la suite des émeutes à la Villeneuve. À partir de là, il y a une sorte de cristallisation, quelque chose qui reste dans l'inconscient collectif, peu importe les données réelles, et cette image reste. Dès qu'il y a des violences urbaines, on parle de Grenoble, sans qu'il y ait des événements très précis. Une mauvaise réputation aujourd'hui, bien ancrée, contre laquelle des habitants et les institutions tentent de lutter, sans pour autant nier les difficultés bien réelles. En 2020, un sondage confié au cabinet Via Voice révélait qu'un Grenoblois sur deux se sentait en insécurité.
Donc selon les données les plus récentes de Grenoble actuellement qui a été enregistrée, il y a eu une augmentation de certains types de délits, notamment les cambriolages et les agressions. Et en fait, on peut voir qu'a fait Grenoble pour combler cette insécurité. En fait, tout simplement, ils ont renforcé un petit peu plus sa présence policière. Donc en fait, la mairie a pas mal investi en budget là-dedans pour recruter pas mal de nouveaux agents de police et par la suite améliorer leurs conditions de travail des forces de l'ordre. Après, ils ont déployé pas mal de caméras de vidéosurveillance dans pas mal de zones sensibles, qui a permis à une meilleure prévention et résolution des crimes. Après, par pas mal de partenariats, des programmes comme les voisins vigilants encouragent la participation active des citoyens à la surveillance dans leur quartier. Et pour finir, il y a pas mal de prévention, donc des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pour informer les habitants sur les bonnes pratiques en matière de sécurité. Et avec ceci, on est récemment sorti avec Hugo, on a pu interroger deux personnes, donc on va pouvoir vous laisser écouter le témoignage de ces deux personnes qui parlent de la sécurité à Grenoble.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité à Grenoble, car plusieurs villes aux alentours disent que c'est le Chicago de la France. Alors voilà, nous voulons savoir votre avis.
Alors, écoutez, moi je viens d'une ville pas trop loin de Chicago, donc je connais bien là-bas. Après, c'est vrai qu'ici, il y a des quartiers, je pense, qui craignent un peu plus que d'autres. Après, pour dire, pour dire jusqu'à ce que ça ressemble à Chicago, peut-être pas non plus. Ouais. Personnellement, je vais pas forcément me balader toute seule dans certains quartiers, même la journée. Donc, voilà.
Parfait, merci beaucoup.
Alors moi aujourd'hui déjà j'ai quitté Grenoble depuis un an quasiment, donc bon je sais pas comment c'est développé depuis le temps où j'habitais. Moi personnellement j'habitais plutôt la partie centrale, pas l'hypercentre mais pas très très loin. Personnellement j'ai jamais ressenti réellement des problèmes d'insécurité. Alors autant quand je venais sur Grenoble, quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années, l'hypercentre, on ressentait une insécurité à partir de 7h du soir. Aujourd'hui, je ressens pas du tout ça. Et moi, j'habitais avec ma fille sur Grenoble. Ma fille était étudiante et elle n'a jamais ressenti les problèmes d'insécurité. Alors l'insécurité, pour moi, on va le retrouver ça plutôt dans des zones très particulières. Mais bon, moi personnellement, j'ai vécu 15 ans sur Paris et j'ai jamais ressenti l'insécurité sur Paris. Donc voilà, l'insécurité, je le ressentais par exemple quand j'allais à Saint-Denis le soir. Mais la journée, il n'y avait pas de problème. Donc Alors déjà, j'ai une relation assez particulière avec l'insécurité. Je la ressens pas vraiment, quoi. Enfin, à part vraiment quand il faut vraiment que ce soit très tendu. Mais c'est exceptionnel. Il faut vraiment aller dans des quartiers particuliers où, voilà. Mais autrement, non. Personnellement, je ressens pas l'insécurité sur Grenoble.
D'accord. Merci.
Merci à toutes pour l'écoute de ce sujet. Restez prudents. N'hésitez pas à participer aux initiatives locales pour renforcer la sécurité dans votre quartier. Et toi, Nolan, t'en penses quoi de la sécurité à Grenoble ?
Alors, moi, j'ai déménagé depuis un an sur Grenoble. Donc, avant, j'habitais dans le sud. Et je trouve que l'insécurité est bien présente à Grenoble comparée aux autres métropoles. Donc, un grand merci à vous deux. Un sujet très complet. Avant de nous lancer dans notre débat, une petite pause musicale et on revient de suite.
Addicted to the thrill.
I'm ready.
It's a dangerous love affair.
Come on.
Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight.
Pledge your allegiance, get your batiks on. All black everything, black cars, all black everything. And our girls are black birds, riding with they diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is not familiar, I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks. Yeah, I'm talking 5,60, shot zeros, hit the back to running circles round, niggas, now we squared up, hold up.
Life's a game, but it's not fair, yeah. I break the rules, so I don't care,
uh-huh.
So I keep doing my own thing, walking tall against the rain. Victories within the mile, almost there, don't give a damn. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight.
In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God, peace God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Margiela on the table screaming. Fuck the other side, they jealous. We got a banquet full of bras, they got a table full of fellas.
Yeah,
and they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space.
Yeah.
My whole team got dough, so my bank head is looking like millionaires, bro.
Yeah.
Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain. Victories within the mile, almost there, don't give up now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight.
Go from being Joe Blow to everybody on your dick, no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asked for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a fucking rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm coming. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two beast things. And I'm beasting off the re-sling. And my nigga just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a mate? What? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill. You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel.
What's up?
Hey,
what's up?
Hey.
fin de notre pause musicale, donc vous êtes de retour dans la chronique des Charmilles. Nous nous retrouvons en compagnie de Hassen pour échanger sur le conflit en Ukraine.
Bonjour à tous.
Donc le 24 février 2022, la Russie déclenche son opération spéciale sur le territoire ukrainien. Plusieurs versions, mais malheureusement une seule version nous est rapportée dans les médias occidentaux. En compagnie de Hassen, nous allons confronter les points de vue de ce conflit russe et occidental. Donc pour commencer, je vais introduire le débat. En 2014, la Russie a commencé à envahir la Crimée avec des troupes sans insigne véritable pour s'emparer des points stratégiques comme les bases militaires ou les bâtiments gouvernementaux. Donc seulement pour protéger la langue russe dans cette région de l'Ukraine. Donc le tout pour une cause géopolitique où la Russie cherche à réaffirmer son influence dans le monde. Il y a aussi un sentiment de nationalisme où Vladimir Poutine a reconsidéré la perte de l'Ukraine qui faisait partie de l'URSS depuis 1922. Elle est ensuite devenue indépendante en 1991. Donc les morts estimés de 2014 à 2022 sont estimés à environ 13 à 14 000 morts. Donc la question que je me pose, est-ce que autant de morts valent une cause géopolitique?
Ah mais déjà, faut remettre les choses dans leur contexte, parce que là, tu me parles de 13 000 morts, mais c'est 13 000 morts du côté russe qui ont été tués par les Ukrainiens. Parce qu'en 2014, il y a eu une révolution, la révolution Maïdan. Suite à cette révolution, c'est les Européens qui ont pris le pouvoir en Ukraine, les pro-européens. Ils ont interdit la langue russe. Ils ont limité les droits des Ukrainiens et leur ont supprimé le droit de vote. Donc les Ukrainiens de nationalité russe. Ensuite, ils sont révoltés contre l'Ukraine. À partir de là, l'Ukraine a envoyé son armée, les a massacrés. Donc ces morts-là, c'est des morts russes. Ça, c'est le pouvoir ukrainien qui a tué des civils ukrainiens qui étaient favorables à la Russie. Pour commencer, par rapport à la Crimée, en France, ça nous est présenté comme une invasion. Il faut rappeler qu'il y a eu un référendum en Ukraine qui a été approuvé par la majorité de la population, donc ils ont choisi de se rattacher à la Russie. L'histoire d'invasion, déjà, ça tient pas trop. Ensuite, faut rappeler que ce conflit a été déclenché par l'Ukraine en 2014. C'est l'armée ukrainienne qui a commencé à envoyer ses soldats massacrer des civils. Ok, donc nous, la vision qu'on a, c'est l'invasion de la Russie en 2022. Faut quand même rappeler que ce conflit a commencé 8 ans avant, qu'il y a eu 18 000 morts avant que la Russie n'intervienne. Et que Poutine a fait le maximum pour empêcher le déclenchement de ce conflit. Donc, faut rappeler les accords de Minsk le 5 septembre 2014 et de Minsk 2 le 12 février 2014. Par rapport à Minsk 2, on a une interview de François Hollande en caméra cachée dans laquelle il a déclaré droit dans les yeux face caméra que les accords de Minsk c'était de la poudre aux yeux pour endormir la Russie. Le seul but de cet accord, c'était pas de mettre fin au conflit, mais de permettre à l'Ukraine de s'armer pour pouvoir gagner la guerre. Donc il a dit clairement qu'il voulait gagner du temps. Donc ce point de vue neutre et pacifiste qu'on a en France, moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu du foutage de gueule. Excusez-moi l'expression.
Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette position que tu as évoquée de neutralité sur les pays de la France et de l'OTAN. Donc pour moi, les pays de la France et de l'OTAN ne sont pas complètement neutres, étant donné que l'OTAN s'est élevée face à la Russie et la France a débloqué un budget colossal pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion de la Russie.
Par rapport à ça, on est d'accord. Donc ouais, la France et l'Occident en général n'est pas neutre. C'est d'ailleurs la version russe. En Russie, de leur point de vue, ils le déclarent clairement qu'ils ne sont pas en guerre contre l'Ukraine, mais ils sont en guerre contre l'influence occidentale, contre l'Occident. Donc c'est vraiment la version russe. Ils le disent clairement chez eux, c'est pas contre l'Ukraine. Donc du point de vue russe, l'Ukraine c'est un pays frère. Faut rappeler qu'ils parlent la même langue, ils ont la même religion, ils ont la même histoire. Donc dans l'histoire de la Russie, la première capitale c'est Kiev. Quand ils remontent dans l'histoire de la Russie, la ville fondatrice, comme nous en France, bon voilà, on a Paris, pour les Russes, c'est Kiev la Russe. L'histoire ancienne de la Russie, elle est née en Ukraine. Ils ont été séparés récemment. L'Ukraine a été créée en 1921 suite à la défaite de l'Empire russe. Voilà, l'Ukraine, c'est quand même un pays qui a une histoire particulière. Avant la Première Guerre mondiale, l'Ukraine était séparée en deux, donc il y avait un côté qui était russe, ils parlaient russe, c'était l'Est, et l'Ouest, c'était Autriche-Hongrie. À l'Ouest et à l'Est, ils ont vraiment pas la même histoire. C'est vraiment deux peuples différents. L'Ouest, c'est le... Ils sont plutôt du côté européen. Déjà, ils parlent pas la même langue, ils ont pas la même religion, et comme je vous ai dit, de leur histoire, dans leur histoire, comment ils étudient l'histoire de leur pays... Eux, c'était l'Autriche-Hongrie, c'était pas la Russie. L'Est, c'était vrai, sont vraiment russes, slaves, orthodoxes, et voilà. Donc c'est vraiment un pays séparé en deux.
Moi, j'aimerais juste revenir sur le fait que tu as dit que la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine. Pour moi, de ce que je vois sur les médias et même de ce que j'ai pu m'informer, c'est clairement une guerre. Et quand il y a des morts, enfin. On peut pas dire que
du point de vue, les Russes, ils ont appelé ça une opération spéciale. Ils ont pas appelé ça une guerre, ils ont appelé ça une opération spéciale. Leur but, c'était de libérer le pays de des fascistes. Donc, ce qu'ils appellent les fachos, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont à l'ouest. Donc, ils sont vraiment anti-russes, anti-slaves. Voilà, c'est pas une guerre contre l'Ukraine, comme je le disais tout à l'heure.
Après, faut pas oublier qu'il y a quand même des civils qui sont tués. Enfin, il y a quand même énormément de pertes. Je vais revenir sur le fait que tu dis que l'Ukraine est fasciste. Donc, alors, tout d'abord, enfin, c'est pas le peuple. Les Russes ne parlent pas du peuple entier qui est fasciste. Il y a une minorité.
Ouais, bien sûr.
C'est le gouvernement qui est fasciste. Alors, pourquoi le peuple ukrainien en subit les conséquences?
Poutine, dans ses discours, parle souvent de nazis. Donc, il fait référence aux bandéristes. Bandéristes, c'est un mouvement qui se revendique de Stéphane Bandera. Pour rappeler brièvement l'histoire, Stéphane Bandera, c'était le bras droit d'Hitler en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, dans sa vision de l'Ukraine, il se revendique vraiment, on va dire, à rien. Hein. C'est vraiment une vision nazie de l'histoire. Aujourd'hui, dans les écoles ukrainiennes, dans les programmes scolaires, donc Bandera, c'est clairement décrit comme un héros. Donc, pour conclure, il n'y a jamais de gentil ni de méchant dans un conflit. C'est jamais aussi simple qu'on veut nous le faire croire. Donc, je vous invite à vous renseigner, à chercher un peu plus d'informations pour comprendre ce conflit et se faire sa propre idée.
Pour ma part, ma position est déjà prise du côté occidental. Où il y a très clairement une agression de la part de la Russie vers l'Ukraine. Faut toujours le rappeler que dans un conflit, rien n'est tout noir ou blanc. Peu importe dans quel pays on cherchera, on trouvera toujours des défauts. Donc voilà. Donc moi, je suis contre ce conflit et la Russie doit cesser le combat et laisser l'Ukraine en paix. Donc voilà qui met fin au débat et également à notre émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis cette émission réalisée par Tristan, Hugo, Hassen et par moi-même. Donc un projet inscrit dans les ateliers de la fabrique du CFP Charmy en collaboration avec News FM. On vous dit à une prochaine fois sur les ondes et d'ici là, portez-vous bien. Salut.
Merci à
tous. Au revoir. Salut.